autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver en ce premier lundi de janvier. Je vous souhaite à tous une belle et douce année. Amis auditeurs libres et curieux, nous allons continuer de nous interroger ensemble sur ce qui nous construit individuellement et collectivement. Aujourd'hui, c'est notre mémoire que nous allons remettre en question et surtout en lien avec ce qui semble être son contraire, l'oubli. Pourquoi la mémoire, c'est aussi l'oubli et pourquoi l'une ne va pas sans l'autre? Voilà ce que nous allons chercher à comprendre dans une approche résolument interdisciplinaire. Avec nos invités, le professeur Francis Eustache, neuropsychologue, éminent spécialiste de la mémoire, et le professeur Jean-Gabriel Ganassia, informaticien spécialiste d'intelligence artificielle. Autour de la question, pourquoi la mémoire, c'est aussi l'oubli? Bienvenue. Bonjour Francis Eustache.
Bonjour et meilleurs vœux.
Merci, à vous de même. Merci en tout cas d'être venu de Caen pour être en direct avec nous. Vous êtes neuropsychologue, l'un des plus éminents spécialistes de la mémoire. Vous dirigez l'unité de recherche INSERM de neuropsychologie cognitive et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine à l'université de Caen. Vous êtes également directeur d'études à l'école pratique des hautes études et président du conseil scientifique de l'observatoire B2V des mémoires. Vous venez de publier Mémoire et oubli aux éditions du Pommier, la première production de cet observatoire interdisciplinaire qui rassemble les travaux croisés de neuroscientifiques, mais aussi de philosophes, d'historiens et d'informaticiens. La mémoire et l'oubli, ce sont des sujets tellement complexes qu'il faut les étudier à la fois ensemble, en duo, mais surtout à plusieurs, Francis Eustache, en interdisciplinarité.
Absolument. La mémoire ne peut être comprise que de façon multidisciplinaire. Et si on peut faire mieux, ce serait de l'étudier de façon transdisciplinaire, c'est-à-dire de trouver un moyen commun, une méthodologie, des concepts, des théories qui puissent s'appliquer ensemble à différentes disciplines.
En sciences humaines comme en sciences dites exactes.
En sciences humaines, les sciences humaines sont très très importantes. Elles ont peut-être été un peu négligées ces dernières décennies et c'est bien dommage. Donc avec bien entendu la neurobiologie, la biologie, les sciences de la vie on va dire, les sciences médicales, les sciences de l'ingénieur, l'intelligence artificielle, et c'est Jean-Gabriel Ganassia qui en parlera, mais aussi les sciences humaines, évidemment. Et c'est comme ça, je pense, que l'on peut parvenir à comprendre cette fonction qui nous paraît simple et qui est en même temps très complexe.
Et qui nous constitue tous.
Voilà, absolument.
Bonjour Jean-Gabriel Ganassia.
Bonjour, meilleurs vœux aussi.
Meilleurs vœux à vous aussi. Vous êtes professeur à l'université Pierre et Marie Curie, où vous dirigez l'équipe ACASA du laboratoire d'informatique de Paris 6. Le chercheur donc en informatique, spécialiste d'intelligence artificielle et philosophe que vous êtes, est aussi membre donc de l'observatoire B2V des mémoires, et à ce titre l'un des auteurs de cet ouvrage interdisciplinaire, Mémoire et oubli. Mémoire et oubli, ce sont aujourd'hui des enjeux cruciaux pour la recherche en informatique.
Bah, tout à fait. D'abord, il y a un aspect un peu paradoxal entre mémoire et oubli, mais il faut bien comprendre que les dispositifs de stockage d'informations dont nous disposons aujourd'hui, qui ont des capacités absolument inouïes, ne peuvent être exploités que si on est capable d'extraire l'essentiel, la quintessence de toute cette information qui est stockée. Et pour faire cela, eh ben, il faut oublier l'inessentiel. Que ferait-on, bien sûr, hein, si on était simplement face à ces quantités?
Voilà,
ces montagnes absolument prodigieuses. Et tout le travail qui a motivé les chercheurs en intelligence artificielle depuis 50-60 ans dans la discipline qu'on appelle l'apprentissage machine, ça a été d'être capable de profiter, de tirer parti de façon efficace de ces quantités d'informations. Et pour ça, eh ben, il va falloir essayer d'extraire, d'oublier.
D'oublier une grande partie des informations.
Une grande partie des informations.
Autour de la question, pourquoi la mémoire, c'est aussi l'oubli, et comment faire le tri, comment se souvenir des belles choses ou des choses essentielles? Première piste de réflexion sonore sur les traces du mix de Charles Pélabon.
Qu'est-ce que c'est la mémoire pour nous?
La trace n'est pas le souvenir.
Il faut oublier tout. Peut s'oublier.
La mémoire, c'est le passé, mais c'est en même temps l'avenir. C'est avoir un projet, c'est reconstruire.
Il y a un truc que j'oublie à chaque fois, mais j'ai oublié ce que c'est.
certains mécanismes que nous décrivons de mémoire et d'oubli, on les trouve également dans les mouvements de l'histoire.
Je ne peux pas l'oublier. J'ai beau essayer de faire des choses, mais ça me revient toujours. C'est en moi, quoi.
Toute l'imagerie cérébrale montre très bien qu'il est impossible de comprendre ces dynamiques mémorielles si on ne prend pas en compte l'input du social.
On a ces activations hippocampiques seulement quand un sujet rappelle ce qu'on appelle un vrai souvenir.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers.
Pour faire du vélo aussi, on fait appel à la mémoire, mais pas n'importe laquelle, la mémoire procédurale.
Quand un patient a des troubles de mémoire, on peut visualiser des lésions du cerveau. Dans cette image qui représente un groupe de patients atteints d'une maladie d'Alzheimer, eh bien on voit une atrophie de l'hippocampe.
Dire que je l'ai su à un moment, il n'y a pas longtemps, puis que c'est parti.
J'avais une question, mais je l'ai oubliée.
Comment éviter que les nouvelles technologies se substituent à notre mémoire ?
L'ère de la donnée, data.
Texto, mail, achat en ligne, coordonnées GPS, 2,5 trillions d'octets par jour de métadonnées qui vont se stocker sur Internet.
Le droit à l'oubli, il existe déjà en droit français.
En robotique collective, puisqu'il faut construire le robot à partir d'une page blanche, se pose la question, quelle mémoire faut-il lui donner ?
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien.
J'ai la mémoire qui flanche, Francis Eustache. Vous pourriez nous expliquer, nous définir peut-être ce que c'est que la mémoire, justement ?
On peut définir très simplement, puis on verra ensuite que c'est un peu plus complexe. Mais la mémoire, c'est une fonction mentale, donc avec bien sûr un cerveau hein, derrière, mais c'est une fonction mentale qui permet d'enregistrer, de stocker, si le terme est pas très bon, mais de maintenir en tout cas des informations et de pouvoir les récupérer. Parce que le but est bien de pouvoir les récupérer.
Donc c'est ces trois fonctions-là.
C'est trois grands moments. On enregistre. On dit on encode dans notre jargon, on stocke, on consolide, on maintient, et puis ensuite on récupère cette information. Mais évidemment, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de temps éventuellement, mais beaucoup de processus qui ont fait que la trace enregistrée au premier temps de cette aventure est celle que l'on récupère. Mais entre deux, en fait, il y a évidemment une ressemblance, on espère tout du moins qu'il y a une ressemblance entre les deux.
Mais c'est une construction, en fait.
Mais c'est une construction. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je mettais tout de suite le doigt sur le terme de stockage, qui est un terme un peu faux, quoi. Mais on n'a pas de bon terme, parce que même le terme de consolidation, qui est un petit peu plus dynamique, on a l'impression qu'on part de quelque chose et puis qu'il y a une construction linéaire. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe.
C'est beaucoup plus subtil, hein, un de vos ouvrages s'appelle d'ailleurs Les chemins de la mémoire. Ils sont complexes, ces chemins de la mémoire. Alors pourquoi est-ce que c'est indissociable de l'oubli ? Parce qu'a priori, ça semble contradictoire.
Alors, c'est un duo. Qui est absolument indissociable. Parce que, comme le disait Jean-Gabriel Ganassia, face à des données monstrueusement complexes et nombreuses, c'est vrai en intelligence artificielle, mais c'est vrai aussi pour le quotidien, pour l'individu au quotidien.
Mais on enregistre une quantité folle de données, chacun.
En permanence. Mmh. Et donc, il faut faire des tris. Et l'oubli, c'est un des grands partenaires de ce tri. Donc, on a besoin de l'oubli pour que la mémoire fonctionne, comme on a besoin de la mémoire pour que l'oubli fonctionne.
Donc, c'est vraiment un duo, c'est un binôme.
Il faut aussi que l'oubli ait du matériel à oublier. Et il y a des situations pathologiques où justement cet oubli fonctionne mal. C'est par exemple les situations de mémoire traumatique. La situation de mémoire traumatique, c'est une situation où l'oubli, où ce duo mémoire-oubli fonctionne mal.
On n'arrive pas à oublier.
Et ce qui va être certainement le plus gênant, le plus perturbant, voire ce qui va perturber vraiment la vie de la personne qui a ce type de pathologie, hein, qu'on appelle état de stress post-traumatique, c'est le fait que ce duo mémoire-oubli fonctionne mal, et cette capacité qu'a la mémoire à synthétiser les informations, à prendre du recul en quelque sorte, à discerner l'important du moins important et à construire quelque chose de nouveau en cohérence avec nous-mêmes, eh bien cette capacité, la personne ne l'a plus complètement.
Parce qu'en fait, la mémoire ou les mémoires, hein, parce qu'il y a différentes sortes de mémoires, c'est quoi ? C'est un tri perpétuel ? Et c'est tout le temps en mouvement aussi ?
Alors, La mémoire ou les mémoires, je pense qu'on peut parler de la mémoire, mais une mémoire qui s'appuie sur différents systèmes de mémoire, différents types de représentations mnésiques, hein, différents types de représentations de mémoire. La mémoire des souvenirs, on appelle la mémoire épisodique, c'est celle qui était évoquée dans les chansons tout de suite, chez la mémoire qui flanche, c'est-à-dire qu'on a, on a des souvenirs qui sont moins précis. En même temps, c'est le devenir d'un souvenir, c'est d'être moins précis. On va conserver, c'est un petit peu triste peut-être de dire ça, de penser à ça, mais on va conserver certains souvenirs. Je pense qu'il faut qu'on garde cette idée, qu'il y a des souvenirs qui sont indélébiles. On va dire ça, même si c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on en a besoin.
Mais ils vont devenir un peu plus flous.
Mais de façon générale, le souvenir de cette émission, demain j'aurai un souvenir extrêmement précis de cette émission, donc un jour j'aurai un souvenir un petit peu moins précis, j'aurai oublié certaines couleurs, etc. Mais j'aurai quand même gardé dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an, le fait d'être venu ici. Et j'aurai conservé un élément fort de ce qui s'est passé pendant cette heure d'émission, et je vais avoir incorporé cette émission à mes connaissances générales sur la mémoire ou de comment parler de la mémoire. Et c'est le fonctionnement de la mémoire, c'est ça. Ces différents systèmes, alors il y en a plusieurs, il y a la mémoire épisodique dont je viens de parler, la mémoire sémantique qui est plus une construction un petit peu plus abstraite de ma représentation du monde.
De mes connaissances.
De mes connaissances générales, sur le monde, mais également sur moi. Moi, en fait, je suis beaucoup plus sémantique qu'épisodique. Je parle de moi, chacun parle de lui-même de façon...
Moi-même,
mon identité, elle est beaucoup plus une connaissance générale sur moi qu'une biographie, qu'une autobiographie, sauf si quelqu'un se met à écrire son autobiographie, là, il est obligé de retrouver des bribes,
etc. Mais sinon, on a chacun une mémoire sémantique de
soi-même. On est beaucoup plus sémantique qu'épisodique.
Autour de la question, pourquoi la mémoire, c'est aussi l'oubli ? J'ai oublié, on écoute Grand Corps Malade sur RFI.
Commencer ce texte par une belle introduction. J'ai oublié de vous préparer avant d'entrer en action. J'ai oublié de vous prévenir que je m'aperçois que dans ma vie, j'ai oublié pas mal de choses si vous voulez mon avis. J'ai oublié d'être sage, j'ai oublié d'être prudent. J'ai oublié de me ménager et je me suis cassé les dents. On m'a dit qu'on ne pouvait pas être et avoir été. Moi j'ai oublié de faire attention à moi une nuit d'été. J'ai oublié ce que c'est de courir derrière un ballon. J'ai oublié d'être fort comme Achille et son talon. J'ai oublié de remercier mes parents pour tout ce qu'ils ont fait. Mais je suis pas doué pour ce genre de truc, c'est pas moi le fils parfait. J'ai oublié de prendre des risques dans l'ensemble de mon parcours. Et quand je regarde derrière moi, parfois j'ai le souffle court. J'ai traversé les années plus vite qu'on passe un péage. J'ai oublié de prendre le temps de voir passer les nuages. J'ai oublié d'écrire un texte sur la force de l'amitié, qui met l'amour à l'amende dont la faiblesse me fait pitié. Y'a pas beaucoup de meufs qui m'ont vraiment fait me retourner. J'ai oublié de tomber amoureux depuis quelques années. J'ai oublié d'imaginer de quoi seront faites les années prochaines. Et quand on me parle de l'avenir, j'ai tendance à changer de chaîne. J'ai oublié de payer mon amende pour m'être garé devant la station. Tant pis pour moi, maintenant j'ai 30% de majoration. J'ai oublié de faire en sorte que ce texte soit structuré. Ça part dans tous les sens tant que ma feuille n'est pas saturée. J'ai oublié de mettre des baguilles et des ensembles en peau de pêche. J'ai oublié d'avoir du style et c'est comme ça depuis la crèche. J'ai oublié de chialer depuis un sacré bout de temps. Une sorte de sécheresse ophtalmique, c'en est presque inquiétant. Je sais pas si c'est normal, mais c'est vrai que pour être franc, la dernière fois que j'ai versé une larme, on a acheté le pain avec des francs. Dans ces verres, j'ai oublié d'arrêter de parler de moi. J'ai oublié de m'oublier, comme un premier samedi du mois. J'ai l'impression de me mettre à poil depuis bientôt un quart d'heure. Sur ce coup-là, j'ai oublié de garder pas mal de pudeur. J'ai oublié de croire en l'existence d'un être supérieur. J'aime pas les jeux de hasard, j'ai toujours été mauvais parieur. Par ailleurs, tant mieux, car je pourrais pas m'empêcher, me dépêcher de me sauver pour pas confesser mes péchés. J'ai la pêche et à cette façade, faut pas forcément te fier. J'ai pas oublié d'être un con fier qui a du mal à se confier. J'ai oublié de me plaindre quand ça en valait la peine. J'ai oublié d'ouvrir les vannes quand la coupe était pleine. À ce putain de texte, j'ai oublié de trouver une chute, comme un cascadeur qui saute d'un avion sans parachute. Mais chut, faut que je me taise car maintenant c'est la fin.
À vrai dire, pas tout à fait, car pour l'instant j'ai encore faim.
J'ai oublié d'écrire ce que je crois et ce que je pense vraiment. J'ai oublié de croire à ce que j'écris machinalement, mais finalement c'est peut-être mieux, car se rappeler c'est subir. J'ai oublié de penser qu'il était préférable de se souvenir. J'ai oublié mon flow, j'ai oublié mon stylo, j'ai oublié mon micro et j'ai oublié tous les mots. J'ai oublié des tas de sujets, vous avez compris le concept. Alors pour pas trop vous saouler, je vais m'arrêter d'un coup sec.
Grand Corps Malade sur RFI, j'ai oublié. Autour de la question, pourquoi la mémoire c'est aussi l'oubli, nous découvrons avec nos invités pourquoi et comment les deux sont intrinsèquement liés, pourquoi pour se souvenir de certaines choses, il faut en avoir oublié beaucoup d'autres qui ont pourtant laissé des traces en nous. À ce sujet, je vous propose un nouvel éclairage, c'est celui du neuropsychiatre Boris Cyrulnik.
On voit que la trace cérébrale
est une forme de mémoire sans souvenir. On ne sait pas pourquoi on a acquis une sensibilité particulière à un type d'événement. On ne sait pas pourquoi ça nous touche terriblement alors que mon voisin, ça le fait rire. C'est que mon développement préverbal m'a rendu sensible à un type d'événement. Le souvenir, c'est totalement autre chose. Dans le souvenir, il y a presque une intentionnalité de la mémoire. Il y a en tout cas une anticipation des souvenirs. Je vais chercher dans mes souvenirs intentionnellement les images et les mots que je vais vous adresser. Donc il y a une anticipation de l'avenir, je vais vous l'adresser, mais il y a aussi une anticipation du passé, je vais chercher dans mon passé des images et des mots. Or, de tout ce que j'ai vécu depuis que je suis au monde, je n'ai presque rien mis en souvenir. J'ai pratiquement tout oublié. Et ce presque rien constitue mon identité narrative, c'est-à-dire le récit que je me fais, mon histoire, c'est-à-dire les images, les mots, qui sont vrais, souvent, et que j'agence pour en faire une représentation de moi.
On ne se souvient de presque rien, et c'est ce presque rien qui nous constitue. Francis Eustache, vous voulez réagir à cet éclairage de Maurice Hieronymus?
Mais oui, parce qu'il faut bien écrire une histoire. Et il faut bien, y compris, écrire une histoire de soi-même. Donc, on va conserver les choses qui donnent du sens. Mais en même temps, il y a une réalité. Et il faut que la mémoire conjugue ces deux aspects. Et le travail de la mémoire, c'est de les rendre conciliables. C'est-à-dire conciliable l'histoire que l'on veut écrire de soi-même, la cohérence de soi-même, et en même temps une réalité qui nous rappelle à l'ordre régulièrement. Je ne suis pas le plus grand professeur, parce que l'autre jour une élève est venue me voir à la fin du cours, elle m'a dit j'ai pas compris telle chose. Donc ça veut bien dire qu'il faut avoir une correction régulière
entre ce qu'on croit qu'on est et ce qu'on est réellement.
Exactement.
À nos auditeurs, il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux autour de cette question de la mémoire et de l'oubli, et pourquoi la mémoire c'est aussi l'oubli. À nos auditeurs, Mokhtar de Richard Toll au Sénégal cite un proverbe africain assez juste, hein, qui nous dit: quand la mémoire va chercher du bois mort, elle rapporte le fagot qui lui plaît.
Oui, c'est très joli, c'est très poétique, et je pense que c'est très vrai. Ça fait écho à un principe, à savoir qu'on va avoir tendance à, quand tout va bien, quand on est en bonne santé, pas quand on a une maladie grave ou quand on est déprimé, mais quand on est en bonne santé, on va avoir tendance à, on appelle ça le biais de positivité ou l'effet de positivité, on va avoir tendance à rendre plus jolies les choses.
Qui se sont passés, nos souvenirs, à aller chercher, quoi, à garder à oublier le pas beau et à garder le beau.
De façon générale, toute chose égale par ailleurs. Alors c'est vrai que des fois on a des souvenirs qui tristes, qui sont plus forts en intensité. Mais s'ils ont à peu près la même intensité, on va plutôt garder les aspects positifs. On va plutôt avoir tendance à écrire une histoire qui est gaie. Hier j'écoutais à la radio. Une histoire très très pénible d'une femme qui avait vécu des choses très pénibles. Eh bien, elle le racontait à distance, et elle le racontait de façon relativement positive.
C'est-à-dire qu'il y a dans ce tri, ou dans, il y a une forme de choix quand même dans ce qu'on oublie, dans ce qu'on garde. On fait un choix plus ou moins conscient de...
Alors, on fait un choix conscient. Il y a des choses que l'on va vouloir conserver, des choses au contraire qu'on va essayer d'édulcorer ou même d'annihiler. Donc, il y a un choix. Et puis, en même temps, une fois que ce choix est engagé, et là, c'est quelque chose d'assez complexe et de pas parfaitement compris, c'est que ce choix, il va opérer en grande partie à des moments de notre vie où nous ne sommes pas conscients, notamment pendant le sommeil.
Donc, c'est là que se passe le tri, souvent.
Et c'est là que se fait une partie du tri. C'est vrai que les mécanismes de consolidation, il faut beaucoup les rapprocher de ce moment physiologique particulier qu'est le sommeil.
Autour de la question, pourquoi la mémoire, c'est aussi l'oubli, et pourquoi oublie-t-on parfois en dormant? On continue dans 3 minutes, juste après le flash d'info, à essayer de gérer au mieux, si l'on peut, tous nos souvenirs. À tout de suite.
RFI, la saison.
Autour de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie en compagnie du professeur Francis Eustache, pionnier et spécialiste de l'étude de la mémoire humaine et de ses maladies à l'université de Caen, et du professeur Jean-Gabriel Ganassia, informaticien spécialiste d'intelligence artificielle, autour de la question pourquoi la mémoire c'est aussi l'oubli et pourquoi l'une ne va pas sans l'autre. Mémoire et oubli, c'est le titre du premier essai de l'observatoire interdisciplinaire B2V des mémoires. Nous découvrons pourquoi l'oubli est indispensable au bon fonctionnement de la mémoire, ce qui n'est pas sans soulever de nouvelles questions comme celle posée par l'informaticien Gérard Berry, médaille d'or du CNRS 2014.
Ce qui est très très curieux dans la mémoire, c'est son organisation stratifiée. Par exemple, l'autre jour j'étais au restaurant et on s'est beaucoup de questions sur Tintin, et on se demandait le nom de la femme qui est appelée dans les 7 boules de cristal parce que son mari vient d'être plongé en catalepsie, et c'est une femme brune qui se lève du premier rang du théâtre. On se demandait son nom et on était tous sûrs de l'avoir oublié, et tout d'un coup j'ai dit c'est Madame Clermont. Et je ne sais pas d'où c'est sorti de ma mémoire, c'est sorti d'un truc très profond qui n'était pas du tout accessible. Et c'est vraiment en arrêtant d'y penser que ça s'est fait. Donc est-ce qu'on a une idée de ces mémoires très très profondes qui traînent dans le cerveau, dont on ne sait même pas qu'on les a, et de pourquoi il faut arrêter de les chercher pour trouver?
Pourquoi est-ce qu'on a une idée, Francis Eustache? Pourquoi il faut arrêter de chercher pour trouver comme ça quelque chose qui émerge?
Moi, je rejoins l'admiration. Je suis toujours admiratif de le fait de retrouver des choses qu'on croyait complètement avoir oubliées. Donc, comment c'est stocké? Ça reste un mystère. C'est ce qui me passionne dans le métier que je fais. Alors, pourquoi il faut arrêter de chercher? Ça, c'est les chemins de la mémoire. Il y a les grands chemins et les grandes autoroutes. Hier, j'étais sur l'autoroute, donc il y a beaucoup de voies. Et donc, c'est facile d'aller d'un endroit à l'autre.
Sur une grande autoroute,
pour aller dans une grande ville, c'est facile. Par contre, si c'est une toute petite localité, un tout petit hameau, et donc si c'est, par exemple, un mot qui est très peu fréquent, alors là, il faut trouver le bon chemin. Et donc, si vous êtes parti dans un mauvais chemin, il ne faut pas persister, il faut arrêter. Il faut arrêter et vous revenez, et puis avec un petit peu de chance, vous allez retrouver. C'est aussi simple que ça.
Quand on a un nom sur le bout de la langue, oui.
C'est généralement un mot peu fréquent. C'est pas Monsieur le Boulanger. Le nom de Monsieur le Boulanger, vous le retrouvez parce que le boulanger, il est connecté à plein d'autres.
Et donc il faut arrêter de chercher pour pouvoir prendre une autre toute petite route.
Alors,
peut-être.
Je pense que c'est une explication simple, mais ça marche relativement bien.
Jean-Gabriel Ganassia, en tant que chercheur en informatique, en intelligence artificielle, ça doit vous intéresser ce genre de questions, parce qu'un ordinateur, une machine, elle ne peut pas faire remonter comme ça une donnée à souvenir. C'est pas
bien
possible.
Bien sûr, ça nous passionne. On peut même dire que le début de l'intelligence artificielle, très tôt, s'est intéressé à cette question de la mémoire. Et aujourd'hui, le monde informatique qui nous environne est le fruit de ces recherches sur la mémoire. On ne le sait pas assez, mais le web est construit à partir d'un hypertexte. C'est-à-dire, ce ne sont pas seulement des câblages, ce n'est pas seulement le réseau, Internet, ça c'est plus ancien, mais ensuite le web qui est né en 90 avec Tim Berners-Lee, est construit sur la notion d'hypertexte. Et elle-même, elle a été introduite par un philosophe, Ted Nelson, qui en 1965 s'est demandé comment essayer d'imiter une mémoire sur un ordinateur. Et pour ça, il a repris des concepts et des techniques issues de l'intelligence artificielle en disant, mais une mémoire, ce sont des liens, ce sont ces petits chemins dont parlait Francis Eustache à l'instant, qui sont capables de relier des connexions, des réseaux, ce sont des connexions. C'est ça qu'il appelait l'hypertexte, au-delà du texte. Et Internet fonctionne, plus exactement le web, la toile fonctionne exactement sur ce mode-là,
et stocke du coup en mémoire. Alors c'est bien pire, si je veux dire, que nos montagnes d'informations individuelles.
Tout à fait. On compte en zeta-octets. Alors, pour donner une idée, un zeta-octet, c'est 10 puissance 21 octets. C'est-à-dire 1 avec 21 zéros derrière. Il y a plusieurs zeta-octets. D'ailleurs, ça augmente régulièrement. On est à peu près à 5 zeta-octets aujourd'hui, pour 2015, à la capacité du...
C'est absolument fascinant, le nombre d'informations.
Et en même temps, ce qui est étonnant, c'est qu'on a essayé de regarder comment est-ce qu'on pouvait retrouver l'information. Et c'est ce que font les moteurs de recherche. recherche, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs.
Mais qui y arrive quand même.
Qui y arrive quand même un tout petit peu. Hein. Donc, il y a certainement quelque chose qui ressemble à la façon dont nos mémoires fonctionnent, encore qu'on ait des difficultés qu'on essaye d'améliorer. Hein,
mais en même temps, quand on parle de l'oubli, les machines, elles n'oublient pas.
Alors justement, hein, tout à l'heure, hein, sur les bandes que nous avons passées, quelqu'un citait le droit à l'oubli. Hein, et c'est une question, est-ce que ça se décrète? Est-ce qu'on peut décider tout d'un coup d'effacer quelque chose? Et bien la réalité, c'est non. Hein, les choses qui sont présentes restent présentes. Ce que l'on peut faire, c'est que les opérateurs qui fournissent des accès aux moteurs de recherche, comme Google par exemple, lorsque vous avez un nom, elle est capable éventuellement d'effacer des liens avec certaines pages, hein, mais bien sûr, ces pages restent présentes et il suffit qu'elles soient indexées sur un autre mot pour qu'on soit capable de les retrouver.
Et donc, autour de la question, pourquoi la mémoire, c'est aussi l'oubli? La mémoire des ordinateurs, des machines, du web, c'est pas l'oubli.
C'est pas l'oubli, et en même temps, pour exploiter ce qu'on appelle les big data, c'est-à-dire toutes les techniques qui tirent parti de ces montagnes d'informations et qui sont tout à fait centrales aujourd'hui pour l'économie contemporaine des grandes sociétés, ce qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, tirent parti de ces informations par des mécanismes qui essayent de simuler, alors je sais pas si on peut appeler ça exactement l'oubli, parce que ça fonctionne de façon différente, mais ce que ça fait, c'est que ça essaye de généraliser, c'est-à-dire de perdre une partie de cette information pour retenir ce qui, dans un but précis, est essentiel. Tout à l'heure, on a parlé de traces. Je crois que c'est vraiment important. En informatique, les dispositifs de stockage conservent des traces, mais ensuite, bien sûr, il faut arriver
à les faire remonter,
à les utiliser pour quelque chose. Effectivement, comme disait Boris Cyrulnik, bien sûr, le souvenir, c'est ce qui s'adresse à nous, bien sûr. Ça, c'est la question la plus difficile, et bien sûr, on n'a pas réglé cette...
C'est ça, faire remonter ce qu'il faut vraiment. Alors, autour de la question, pourquoi la mémoire, c'est aussi l'oubli? Je vous propose un nouvel éclairage, justement, sur la mémoire des hommes et des machines. C'est celui de Roberto Di Cosmo, qui est lui aussi chercheur en informatique, lui à l'université Paris Diderot et à l'INRIA. On l'écoute.
Qu'est-ce que c'est la mémoire pour nous? Donc, c'est un instrument fantastique dans lequel nous stockons de l'information dont nous avons besoin. Alors, quel type d'information? Aujourd'hui, tout le monde utilise un GPS, n'est-ce pas? Et on sait aussi que si le GPS tombe en panne, après on est complètement mort et paumé, parce qu'on ne se rappelle absolument plus rien. On a pris une partie de la mémoire qu'on avait devant nous, on l'a mis à l'extérieur. Il y a plein d'outils qui nous aident à faire ça. Vous savez, les petites listes qu'on fait les matins avec les choses à faire. Maintenant, il y a des listes électroniques. Pourquoi on fait des listes? Mais justement parce qu'on ne veut pas se rappeler tout ça. On veut le mettre ailleurs. Pourquoi on a des calculettes? Mais parce qu'on ne veut plus faire de calcul mental. Alors, vous voyez, là, on est dans une grande tension. C'est-à-dire, oui, il y a une peur ancestrale et tout à fait compréhensible de perdre une partie de soi-même au moment où on décide de mettre cette partie ancienne de soi-même, savoir faire des sommes, des additions, des multiplications, ou trouver la roue, la ville, connaître par cœur les noms de tous les rois de France, etc. Et on les met ailleurs, dans un objet qui n'est plus nous, mais qui finalement est une extension de nous. Et de l'autre côté, peut-être il faut être un peu plus optimiste, regarder et dire, bon d'accord, donc tout l'espace mémoire, toute l'intelligence que j'ai libérée en ne faisant plus des calculs mentaux, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre de plus intéressant? Et finalement, c'est un peu toute l'histoire de la construction de notre technologie. Donc, comment comprendre, construire des choses qui étaient là une fois qui deviennent des sciences et de la connaissance aujourd'hui, la mettre à l'extérieur dans des machines pour nous libérer de tous les futurs. N'empêche, évidemment, ça c'est une question philosophique fondamentale, c'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de dénaturer l'être humain? Est-ce qu'on est en train de construire une autre conscience? Est-ce qu'on est en train de construire une entité intelligence qui n'est plus un être humain, mais c'est un mélange entre machine et homme, entre communauté? Bah ça, je ne saurais pas trop vous dire. Je dis juste que je trouve très pratique d'avoir la possibilité de se reposer sur certaines mémoires à l'extérieur pour des choses qui, somme toute, je ne considère plus tellement dignes d'occuper de la place à l'intérieur de ma tête.
Question philosophique, hein, soulevée par Roberto Di Cosmo. Vous en pensez quoi, Jean-Gabriel Ganassia? Nous décentralisons, nous externalisons nos mémoires aujourd'hui.
Nous externalisons nos mémoires, mais ça n'est pas d'aujourd'hui. C'est une vieille affaire. Ça commence peut-être avec les peintures rupestres, avec les cailloux peints, avec ensuite l'écriture. Et on sait bien que Platon, dans le Phèdre, nous parle de la question qui se pose. est-ce que ces supports externes de mémoire ne nous dénaturent pas, hein, parce que on va déléguer à l'écrit une partie de ce qui serait présent. Et bien sûr, l'histoire a accru dans des proportions considérables la quantité d'informations qui sont à l'extérieur de nous. D'un côté, c'est très positif, parce que si on n'avait pas les livres, on ne se souviendrait de rien du tout. Ce que nous racontent nos ancêtres serait définitivement perdu. Et puis en même temps, bien sûr, si on fait trop confiance à ces mémoires externes, et bien à ce moment-là, on ne fait plus peut-être du tout d'efforts de mémoire. Et le risque, ce serait que on soit moins apte à mémoriser d'une part, et d'autre part, l'imagination qui procède souvent par recombinaison d'éléments de mémoire puisse s'appauvrir. Donc c'est un compromis entre les deux.
C'est un compromis à chercher, d'autant plus qu'aujourd'hui on vit quand même une mutation de cet ordre-là. Avec le numérique, on vit une mutation de cet ordre-là, on externalise de plus en plus de choses. Notre GPS, on n'a plus besoin de nous indique où aller, nos téléphones portables, on est passé à la vitesse supérieure, si j'ose dire.
Tout à fait, et comme l'exprime très très bien Roberto Di Cosmo, il se peut qu'avec le GPS, tout d'un coup, nous ne prenions plus attention, nous oublions de nous repérer, donc on ne soit plus capable de se diriger tout seul. Donc peut-être, effectivement, en va-t-il de même, mais en même temps, il y a des aspects très très optimistes. Et donc qu'est-ce qu'il faut concevoir ? C'est une éducation nouvelle qui soit capable de tirer parti du meilleur de toutes ces possibilités offertes par ces mémoires externes et qui, en même temps, essaye de se demander qu'est-ce qu'il faut encore apprendre pour nous repérer au mieux dans cette immensité, cet océan d'informations, et en même temps, bien sûr, conserver son esprit critique et essayer d'être capable
de... Et en même temps, de manière assez étonnante, et là j'ai envie de faire intervenir Francis Eustache, Jean-Noël Ganassia, vous comparez, enfin, Francis Eustache travaille sur les pathologies de la mémoire humaine, et vous comparez, Jean-Gabriel Ganassia, les pathologies de la mémoire des ordinateurs aux pathologies de la mémoire humaine.
Oui, parce que on se rend compte que ces mémoires artificielles peuvent conduire au même danger. C'est-à-dire, d'un côté, on l'a dit tout à l'heure, hein, Francis Eustache l'a noté, hein, ce qui serait une hypermédicine, un excès de mémorisation.
De tout se rappeler,
voilà,
de tout garder.
De tout se garder. Alors, ce qui fait que d'une part, on est encombré, on ne sait pas comment se débrouiller avec, donc première chose. Et puis deuxième chose, il y a des éléments d'information dont on voudrait essayer de se débarrasser de temps en temps, hein, pour pardonner à quelqu'un, par exemple. Hein. Et ça, malheureusement, toutes ces traces que nous laissons, elles sont présentes. Hein. On a vu ces derniers temps, par exemple, avec le système PRISM mis en place par le gouvernement américain, toutes les questions que ça pose. On sait que sur une mémoire d'ordinateur, tout reste stocké. Donc, de ce point de vue, on a trop d'informations. Hein, c'est trop d'informations, à la fois tue l'information et en même temps risque d'être très dommageable pour l'individu. Et puis, d'un autre côté, autre pathologie paradoxale, c'est le risque d'amnésie. C'est-à-dire que ces mémoires sont extrêmement fragiles. Hein, pendant les informations on a parlé de l'œuvre de Marcel Pagnol qui risquait de ne plus être visible. Ce sont des films, et justement, hein, ils sont corrompus par des petites traces de moisissures. On a exactement la même chose avec les dispositifs modernes d'information.
C'est-à-dire que nos supports, mémoires externes sont
sauf
fragiles.
Sauf que le film de Marcel Pagnol, même s'il est un peu moisi, on arrive quand même à le reconstituer, on peut le retoucher. Tandis que si on a affaire à des dispositifs d'une extrême densité, que sont les mémoires modernes, une petite oxydation, une petite corruption fait que on n'est plus capable de les lire du tout. Et donc le risque, bien sûr, c'est que les mémoires telles qu'elles existent aujourd'hui, ces quantités énormes de mémoires, ne soient complètement inutilisables.
Ou ne puissent pas être lues.
D'ici 50, voilà, d'ici... Un CD-ROM, curieusement, ça dure 10 ans peut-être, quelque chose comme ça. Alors aujourd'hui, on a des mémoires qui durent un peu plus longtemps, mais elles sont des durées de vie de 50, 200 ans. Ça n'a rien à voir avec ce qu'étaient les papyrus égyptiens qu'on est capable de lire aujourd'hui. Donc il y a des inquiétudes qui se font jour aujourd'hui sur cette question.
Est-ce que ça parle aux neuropsychologues que vous êtes, Francis Eustache, ces questions de mémoire, d'oubli, de perte, alors finalement, pour le coup total, de pathologie de mémoire des ordinateurs?
J'avais beaucoup aimé le titre d'une conférence de Jean-Gabriel Ganassia qui était « Psychopathologie des mémoires numériques. Et bon, c'est une analogie, je trouve qu'elle est intéressante parce que on voit un système très complexe, donc avec des mécanismes très complexes, et la pathologie s'installe dans ces mécanismes complexes.
Dès que c'est complexe, il y a des pathologies, oui, dès que c'est trop complexe.
La pathologie, c'est souvent une exacerbation de mécanismes qui existent chez tout un chacun quand on n'est pas malade. Et donc c'est des problèmes d'inhibition qui vont être trop importants, des problèmes d'hypermnésie, qui, vous voyez, la mémoire va trop bien fonctionner par certains côtés. Et donc, ce sont des analogies qui sont intéressantes jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point où on voit que finalement notre mémoire humaine dont on se préoccupe, ou la mémoire animale, elle est extrêmement forte. Elle est extrêmement résistante, c'est-à-dire qu'elle va compenser, alors
plus que les machines.
Peut-être plus que les machines. C'était la dernière phrase, hein, quasiment, de Jean Gabriel tout de suite. C'est-à-dire que le petit bug qui s'installe dans le système va être plus difficile à réparer que les petits bugs de la vie quotidienne qui font partie du fonctionnement de la mémoire.
Mais avec lesquels on sait faire. Par contre, il y a des plus grands bugs, ça on va en parler, hein, de questions de pathologie
de la mémoire.
Qui
sont liés aux vraies
maladies de la mémoire. Ouais. On écoute tout de suite la symphonie d'Alzheimer, c'est Barcella, sur RFI.
Peut-être que je fais ma gamine, mamie. Peut-être je suis trop fragile. Mais je sais lire entre tes lignes, mamie. Je connais le langage des signes. Dis-moi que t'as pas tout effacé, mamie. Que t'as pas vidé la corbeille. Que le disque dur n'est pas cassé, parti. C'est le passé qui s'est mis en veille. Dans l'antre de ton cœur d'enfant. Tu réussis à t'y rendre, tu trouveras le brin d'encens que j'avais laissé en descendre. Je veux bien l'allumer pour toi. Tu n'es pas seul dans ce brouillard. Je suis ce petit feu de bois, cette lueur dans ta mémoire. Ça m'habille, mamie. Je voudrais pas que tu croies ça, mais je devine entre tes rites, mamie, que la vie s'est jouée de toi.
Barcella sur RFI, la symphonie d'Alzheimer. Alzheimer, fatalité ou espoir, c'est le titre d'un livre que vous publiez également aux éditions Le Muscadier. Francis Eustache, on comprend mieux ces pathologies-là de la mémoire, on comprend un peu ce qui se passe, pourquoi on la perd.
On comprend mieux, on comprend mieux certains mécanismes physiopathologiques. Il y a différentes pistes aujourd'hui qui sont explorées. On comprend mieux les premiers stades. On sait que c'est une maladie qui se développe très tôt, en fait, dans le cerveau des personnes et qui va s'exprimer tard.
Et c'est pas lié, enfin, elle s'exprime au moment du vieillissement, mais ça n'est pas lié uniquement au vieillissement.
C'est pas vraiment une maladie, il faut pas la confondre avec le vieillissement. Par contre, c'est une maladie qui, de façon générale, parce qu'il y a des formes à début précoces, mais elles sont très rares, elles ont un statut un peu particulier. Mais c'est une maladie qui s'installe tôt dans le cerveau, qui se révèle, dont les symptômes se révèlent tard, vers l'âge de 70 ans, 75 ans, parfois plus tard. Et donc, pendant toute cette période, pendant toutes ces décennies, ce qui est nouveau, si on veut mettre l'accent sur quelque chose de nouveau, c'est qu'on peut agir pendant ces périodes-là. et on peut agir. Et le terme de prévention devient un terme que l'on peut utiliser pour ces maladies, la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies dites apparentées, à savoir notre façon de nous conduire sur le plan de la nutrition, nos activités physiques, nos activités intellectuelles. Notre façon de nous conduire va avoir un effet sur le fait que cette maladie se manifeste plus ou moins tôt.
Et est-ce que notre façon de nous conduire, comme vous dites, ou est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de questions d'auditeurs en ce genre, est-ce qu'il y a des moyens de cultiver sa mémoire? Alors peut-être de ne pas la perdre, mais comment de la cultiver? Est-ce que ça marche, ça?
Alors c'est un peu la nouvelle mnémotechnie, qui fait le lien d'ailleurs avec le thème précédent sur les mémoires externes et les mémoires internes. On a toujours eu effectivement des mémoires externes, et je pense que c'était aussi une inquiétude de perdre cette mémoire qui est tellement importante pour nous, pour notre relation aux autres. Et donc, l'humanité a construit ces mémoires externes et ça a très bien marché.
Pour éviter de perdre la mémoire, on a multiplié nos mémoires externes.
Internet, tout ce que ça représente, c'est magnifique. C'est presque aussi merveilleux que la mémoire individuelle, que la mémoire
presque
interne.
Presque aussi merveilleux à ce sujet, je vous arrête, parce que j'ai un dernier petit éclairage à vous proposer. Celui de la neuropsychologue Sylvie Chocron, qui est chercheuse et clinicienne, autour de la question pourquoi la mémoire, c'est aussi l'oubli, et comment faire pour ne pas tout oublier à l'extérieur, justement.
Comment éviter que les nouvelles technologies se substituent à notre mémoire ou à nos mémoires? Et comment faire pour expliquer aux gens à quel point c'est important de continuer à utiliser notre propre mémoire interne plutôt que d'utiliser des mémoires externes qui sont certes très fiables, complètes, puisque si je cherche la définition d'un mot sur Internet, je trouverai peut-être une définition plus précise que celle que j'aurais donnée, mais en même temps qui sont forcément réductrices par rapport à la mémoire de chacun.
Comment faire? J'ai envie de vous demander vos pistes à chacun. Comment faire, Francis Eustache, pour justement ne pas perdre notre mémoire interne et toute la richesse de notre mémoire interne?
C'est une vraie question. C'est une question d'éducation tout à fait moderne, parce que c'est une nouvelle éducation. C'est comment trouver un équilibre entre l'accès à ces connaissances externes qui sont, il faut bien dire, on a utilisé le terme de merveilleux.
Qui sont extraordinaires, qui nous servent tous les jours.
Et on ne peut pas être passéiste et s'en priver. Au contraire, il faut donner les moyens d'accès aux personnes qui n'auraient pas accès pour des raisons socioculturelles ou d'autres. Et puis en même temps, il faut préserver ce capital de synthèse, qui est ma synthèse, qui est notre synthèse.
Ma synthèse personnelle,
parce
que j'en fais.
C'est pas un monde de science-fiction, mais si les mémoires sont extérieures à moi, qui va en faire la synthèse? Et il faut bien que je sois moi, et c'est à moi d'en faire la synthèse.
Donc,
il faut que j'assimile ces connaissances. Il faut pas simplement savoir qu'elles se trouvent là, ou là, ou là. Il faut aussi que j'en conserve l'essence et que je construise quelque chose d'original par rapport à tout cela.
Jean-Gabriel Ganassia, l'informaticien que vous êtes, en est évidemment conscient.
Bien évidemment, et si je participe à l'Observatoire des mémoires, c'est parce que je pense que c'est l'une des grandes questions. C'est une vieille question, on l'a dit tout à l'heure, et c'est une question extrêmement actuelle. Personnellement, je me suis inspiré des anciens arts de mémoire. Vous savez que dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, il existait une technologie qui permettait aux érudits d'accroître leur capacité mentale par une spatialisation. Ils construisaient, ils mémorisaient des architectures et ensuite ils mettaient dans ces architectures ce dont ils voulaient se souvenir.
Et dans le cerveau, ça marche bien.
Alors
ça,
voilà, mais c'était en imagination, même si c'était des vraies architectures. Et donc, ce qui me semble, c'est que souvent aujourd'hui, avec les mémoires numériques, on a un côté fluide, impalpable de toutes ces quantités immenses d'informations qu'il faut récupérer. Et il faut arriver à construire ce que disait Francis Eustache, s'approprier l'ensemble de ces informations et sa propre représentation. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est des outils qui permettent de spatialiser, de créer des formes artificielles à partir de ces contenus. J'appelle ça des îles de mémoire, justement,
en
référence à ces arts de mémoire. Et donc, ça donne une forme qui va dépendre du contenu, de ce qu'on indexe. Et puis, bien sûr, l'idée, c'est aussi de pouvoir y accrocher soi-même un certain nombre d'éléments d'information, de notes, pour ensuite essayer de se promener à l'intérieur de ces contenus, hein, selon bien sûr ce que l'on a vu, ce que l'on a fait, hein, sans souvenir, hein, sur des formes simples, parce qu'on sait qu'effectivement on mémorise mieux une forme que des organisations abstraites.
Et que là du coup l'imagination est sans limite, parce que j'ai envie de terminer là-dessus. La mémoire, c'est évidemment notre passé, mais la mémoire, c'est aussi ce sont les mêmes réseaux quand on se projette dans le futur, quand on se projette dans le passé, Francis Eustache.
Et Bergson disait déjà, pour se souvenir, il faut savoir rêver. C'est le lien entre la mémoire et l'imagination, et effectivement, là aussi, la projection dans le futur. La mémoire, c'est beaucoup le futur, en fait.
Eh oui, la mémoire, c'est beaucoup le futur. On va s'arrêter là-dessus. Merci infiniment à tous les deux, Francis Eustache et Jean-Gabriel Ganassia, d'être venus en direct nous faire partager donc toutes ces réflexions, ces interrogations, et puis ces pistes, hein, ces îles de mémoire aussi, pour choisir ce dont on veut se souvenir. Je rappelle le titre de cet essai collectif, Mémoire et oubli, qui vient de paraître aux éditions du Pommier, avec le philosophe donc Bernard Stiegler, le neuroscientifique Roland Jaffar et l'historien Denis Péchanski, et c'est donc un travail de l'Observatoire B2V des mémoires. Et à signaler aussi donc votre dernier ouvrage aux éditions Le Muscadier, Francis Eustache, Alzheimer, fatalité ou espoir. Merci à tous les deux.
Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Demain, changement de perspective autour de la question, peut-on faire le portrait du monde tel qu'il émerge sous nos yeux? Nous feuilleterons ensemble l'Atlas global pour découvrir un autre monde avec un autre regard, un monde largement désoccidentalisé et en pleine mutation. Ça sera demain avec Charles Pélabon à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, amis auditeurs, portez-vous bien et choisissez vous-même vos souvenirs, votre mémoire et vos îles de mémoire. Surtout, restez curieux. Merci de votre fidélité. Dans une poignée de secondes, un nouveau journal sur RFI.